Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Nous sommes, chers amis des ondes, les chers amis de Radio Présence, dans cette difficulté qu'il y a à concilier le bien et le mal, enfin on ne concilie pas le bien et le mal, mais à se déprendre du mal et des conséquences du mal pour favoriser le bien de toutes les manières possibles. Et de concrètement, dans nos vies, comment prendre l'habitude de ne pas rendre à autrui ce qu'on appelle la monnaie de sa pièce, et de ne pas se laisser aller à ces petitesses où peut se cacher durablement la malignité. Et des choses mauvaises, mais à petit niveau, et qui sont dangereuses et malfaisantes. Certains tempéraments sont plus tentés que d'autres de garder rancune et de guetter les occasions de faire payer aux autres, avec ou sans intérêt, leur vilenie vraie ou présumée. Garder rancune est déjà un châtiment car le cœur est rongé et il est malheureux. Parfois, il peut nous être impossible psychologiquement de nous débarrasser de ce sentiment obscur. En ce cas, comme en tous les autres semblables, il nous reste à offrir à Dieu cette rancune subie, non nourrie, pour qu'il nous délivre du mal qui est encore à l'œuvre en nous. Il en va de même pour des pensées impures, persistante ou pour des remontées d'orgueil vis-à-vis desquelles il nous semble que nous ne pouvons rien. Elles sont là, nous n'en voulons pas. Il reste au moins à les offrir à Dieu. On n'a pas, c'est pas très beau d'offrir ces choses-là, mais c'est pas ces choses-là qu'on offre à Dieu, c'est le cœur qui souffre de les avoir. C'est un certain jour tout ce que nous pouvons faire et il faut le faire alors. Donc il ne faut pas se venger. Il convient de laisser à Dieu le soin de faire bonne justice. Il faut rendre le bien pour le mal. Ceci est clair, sinon facile à pratiquer. Et est-ce à dire que le chrétien est un non-violent? Lui faut-il toujours et partout tendre la joue gauche quand on lui a donné une gifle sur la joue droite? La question est délicate. David n'a rien d'un homme pleutre ou résigné. C'est un homme d'action, plein de courage et d'audace. Quand il le faut, et parfois quand il ne le faut pas, il sait punir et frapper. Et sa grandeur vient de ce qu'il est capable, en vertu de sa droiture et de sa foi, de canaliser sa nature vigoureuse et sensible à la fois. Quand on est chargé d'une autorité, il n'est pas bon de laisser tout faire ni de se laisser faire. Ne pas se venger est une chose, être faible en est une autre. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans nos commentaires, notre force de réaction mesure le degré de notre amour. Il faut aimer pour défendre, et qui ne réagit pas pour défendre ceux dont il a la charge, n'aime pas et n'est pas à la hauteur de son devoir. Le Christ, doux et humble de cœur, c'est lui qui a dit qu'il était doux et humble de cœur, soyez mes disciples, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Donc le Christ, doux et humble de cœur, n'est pas un homme doucereux. Il n'est ni mièvre, ni évanescent. Et tout le monde connaît l'épisode des vendeurs chassés du temple à Jérusalem, avec la réminiscence psalmique qu'il amène chez saint Jean. Le zèle pour ta maison me dévorera. C'est en Jean chapitre 2 et le psaume 69. Et les propos de Jésus contre les Juifs sont parfois dépourvus d'aménité. Sans reculer, il dit la vérité, qu'elle plaise ou non à ses auditeurs. Cependant, il faut bien dire que la rédemption opérée par le Christ à la Passion est une œuvre de patience. La force ne se mesure pas seulement, ni même principalement, dans l'ardeur offensive. Son axe spécifique est de tenir bon dans l'adversité. Il est plus difficile, en effet, écrit saint Thomas d'Aquin après Aristote, de contenir la peur que de modérer l'audace. C'est pourquoi l'acte principal de la force est de tenir, c'est-à-dire de rester immobile dans les difficultés. Ne pas se venger alors qu'on pourrait le faire est un acte de grande vaillance. David en donne l'exemple dans les deux circonstances que nous avons rapportées et que narre le premier livre de Samuel. Il est en cela le type ou l'image préfigurative de Jésus qui a su dire à Pierre au jardin de Gethsémani « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ? Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Les psaumes, il faut bien l'admettre, ne manquent pas de formules vengeresses, telle cette invective « Fille de Babel qui doit périr, heureux qui te revaudra les maux que tu nous as valus, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc. » Vous voyez que c'est quand même rude. Ces propos ne sont guère dans la tonalité du sermon sur la montagne, pas plus que les suivants, que sur moi les assiégeants dressent leur tête, que la malice de leurs lèvres les accable, qu'il pleuve sur eux des charbons de feu, que jetés à l'abîme ils ne se lèvent plus, que le calomniateur ne tienne plus sur la terre, que le mal ne pourchasse à mort. Que le mal ne pourchasse à mort le violent. C'est la difficulté des imprécations dans les psaumes. La question n'est pas tout à fait simple.